France Culture, les matins du samedi, Caroline Brouet.
Et nous accueillons Ilan Malka. Bonjour Ilan.
Bonjour Caroline, bonjour.
Pour la revue des idées de la semaine. Une question tout d'abord posée par le journal L'Opinion, Ilan.
Oui, les foules peuvent-elles vraiment gagner? C'est une chronique qui soulève des interrogations remuantes. Aujourd'hui, peut-on lire « La rue s'oppose au régime politique à Hong Kong ou à Beyrouth ». Comment les autres pays peuvent-ils la soutenir, cette rue, face au régime autoritaire? C'est toute la question. Et il y a deux approches différentes. Barack Obama, lit-on, avait proposé la patience stratégique. Pas de déclaration lyrique, mais des sanctions qui finiront par faire mal. La France, avec Emmanuel Macron au Liban, ou l'administration Trump à Hong Kong, privilégie la riposte immédiate, exige des réponses, au risque d'être accusé d'immixtion. Avec ces deux approches, il y a deux risques. D'un côté, la crainte de la surréaction, comme en Libye en 2011, et de l'autre, le syndrome de Munich, une inaction coupable. L'Opinion appelle les démocraties à se doter d'une stratégie collective méthodique pour appréhender ces dilemmes. Comment soutenir les rebelles? Voilà une question particulièrement actuelle. Deux rebelles, par exemple, ont fait la une de l'actualité ces jours-ci. Ils s'appellent Rimbaud et Verlaine. Pour les honorer, faut-il les installer au Panthéon? C'est ce que réclame une pétition signée par Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. Mauvaise idée, selon Étienne de Montetti dans Le Figaro. Toute la vie des deux poètes, écrit-il, tourne le dos à la société. Ils furent épris de liberté jusqu'à faire de la transgression un art de vivre. Il ne faut donc pas, selon lui, les enfermer au musée des grands hommes. Leur territoire, ce n'était pas les palais de la République, c'était des tavernes enfumées à s'intoxiquer de tabac et d'absinthe, les chemins d'Abyssinie à faire commerce d'armes à feu de contrebande. Alors en lisant ces lignes, on se pose une question. Si ces deux rebelles vivaient aujourd'hui, est-ce que certains n'auraient pas eu envie de les canceled, les faire taire? Cela nous renvoie à cette grande étude de Laure Dossi sur le site de Charlie Hebdo qui évoque la cancel culture. Alors l'idée est assez en vogue, hein. Elle consiste à effacer du paysage purement et simplement une personne quand sa parole est jugée offensante. L'étude dans Charlie est absolument passionnante, extrêmement complète. Elle cite de nombreux exemples. James Bennett, directeur des pages opinion du New York Times, licencié après la parution d'une tribune d'un sénateur républicain. En France, Sylviane Agacinski, dont la venue à l'université de Bordeaux a été annulée sous la pression de plusieurs associations. Si la cancel culture fait rage avant tout aux États-Unis, peut-on lire, cela pourrait s'expliquer paradoxalement par la liberté d'expression absolue inscrite dans la Constitution. C'est l'analyse en tout cas de la chercheuse Nathalie Heinrich dans Charlie. Comme la loi ne limite pas cette liberté d'expression, eh bien c'est le peuple qui se mobilise, mais son importation en France, dit-elle, est d'autant plus absurde.
Et puis Ilan Malka, dans le New York Times, on parle d'une idée politique en vogue, les baby bonds.
Oui, alors c'est une idée qui est née en Grande-Bretagne. Toutes les personnes nées entre 2002 et 2011 ont reçu du gouvernement, à leur naissance, un compte d'épargne utilisable dès leurs 18 ans. Alors aujourd'hui, donc tous y ont accès. Certains de ces comptes contiennent plus de 5000 livres, 5400 euros. Et l'idée commence petit à petit à s'exporter. Par exemple, Philip Murphy, gouverneur du New Jersey, propose de créer le premier programme américain de baby bonds. L'argent, lit-on dans le New York Times, pourrait être utilisé pour payer les frais de scolarité, acheter une maison, créer une entreprise. Voilà qui peut donner aux enfants une meilleure chance de prospérer. Alors pour certains républicains, la mesure coûte trop cher, 80 millions de dollars par an. Sera-t-elle adoptée ou non? Donc il faudra suivre. En tout cas, on l'a compris, le New York Times, lui, y est très favorable. Si on n'agit pas maintenant, écrit-il, les inégalités futures vont s'accentuer. Sous-entendu, un bébé avec un compte d'épargne aujourd'hui, c'est peut-être un rebelle en moins à gérer pour la société demain.